Je vais donc vous présenter cette étude qui a été réalisée dans le service de santé publique des hôpitaux universitaires de Strasbourg et qui porte, comme vous l'avez dit, sur les séjours classés en bande basse depuis la mise en place de la 11e version de classification des groupes homogènes de malades. Le contexte, c'est donc bien évidemment la V11, dont une des principales évolutions a été l'introduction des niveaux de sévérité qui permettent de rémunérer plus justement les séjours en fonction de l'état de gravité des patients pris en charge. En parallèle, logiquement, le rôle de garde-fou joué par les bandes basses a été renforcé dans ce système et leur mode de financement a lui aussi été revu. Je ne reviendrai pas sur la manière dont sont financées les bandes basses. Alors, pourquoi a-t-on fait cette étude ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'entre la V10 et la V11, il y avait une forte augmentation du nombre de séjours classés en bande basse, puisqu'on avait en 2008, en V10, 0,4% de séjours en bande basse, et en 2009, sur les deux premiers mois d'application de la V11, 3,7% de séjours en bande basse. Il est d'ailleurs intéressant de noter au passage que si on rapporte le nombre de séjours en borne basse au nombre de séjours dans des GHM comportant une borne basse, cette augmentation est moindre. C'est lié bien évidemment à l'effet classification, puisque plus de GHM comportent des bornes basses. On a donc fait une étude pour essayer de déterminer si cette augmentation du nombre de séjours en borne basse était bien réelle et reflétait donc les pratiques médicales dans l'établissement, ou si elle n'était ou si elle n'était pas plutôt due à des erreurs de codage. Le deuxième objectif était de mesurer l'impact de ces séjours en borne basse en termes de recettes pour l'établissement. On a donc repris les séjours de mars et avril 2009 en borne basse, à l'exclusion des séjours dont l'issue était le décès, puisque, comme vous le savez, ces séjours ne sont pas concernés par le déclassement en tarifs. Et nous avons contrôlé le codage de ces séjours à partir des outils de recueil PMSI de l'établissement, pour l'essentiel les lettres de sortie et plus occasionnellement le serveur de résultats. Nous avons ainsi classé les séjours en deux grandes catégories, d'une part les vraies bornes basses et ensuite les fausses bornes basses. Alors les vraies bornes basses, ce sont des séjours qui sont bien codés ou bien groupés. Ce que j'appelle bien groupés, ce sont des séjours pour lesquels il peut y avoir des erreurs de codage, mais qui n'ont aucun impact en termes de groupage. Les vraies bornes basses, ce sont aussi des séjours mal codés, mais qui après recodage changent de GHM, mais sont toujours en borne basse. Enfin, les fausses bornes basses sont des séjours qui sont mal codés et qui après recodage changent de GHM et ne sont plus en borne basse. Ensuite, nous avons regardé de plus près les erreurs de codage qu'on avait retrouvé, et mesurer l'impact sur les recettes pour l'établissement, l'impact du classement en borne basse, d'une part, et d'autre part, l'impact des erreurs de codage et des corrections qu'on y a apportées. Il y avait donc, comme je l'ai dit, 783, je ne l'ai pas dit, mais j'ai donné le pourcentage, 783 RSS en borne basse en mars et avril 2009. Nous avons pu en contrôler 538. Les autres, il nous manquait l'information dans le système d'information et nous ne sommes pas retournés au dossier papier. Ces séjours contrôlés se répartissent ainsi. Donc, trois quarts des séjours étaient des séjours médicaux, 20% chirurgicaux. Et le niveau de sévérité, comme indiqué ici, nous avions 31% de niveau 1 ou A, CMD concerné, et environ un peu plus de 40% de niveau 2 à 4. Le résultat du contrôle qualité sur le codage a été le suivant. Nous avions un peu moins de la moitié des séjours qui étaient finalement bien codés ou bien groupés, et plus de la moitié qui étaient mal codés, donc qui changeaient de GHM. Une très grande majorité des séjours mal codés étaient, après recodage et changement de GHM, n'étaient plus en borne basse. Donc 49% des 54% des séjours mal codés. Au final, si on reporte ça dans notre diapositive de méthode, nous avions 51% de vraies bornes basses et 49% de fausses bornes basses. Finalement, notre taux de bornes basses dans l'établissement en V11, mars-avril 2009, n'était plus de 3,7 mais de 1,9%, ce qui reste bien sûr élevé. Si l'on s'intéresse au niveau de sévérité des séjours contrôlés, on constate que avant et après correction, ces niveaux de sévérité changent, puisqu'on avait avant correction 31% de niveau 1 et 43% de niveau 2 à 4, alors qu'après correction, les niveaux 2 à 4 ont fondu au profit des niveaux 1. Le rapport niveau 1, niveau 2 à 4 s'inverse. Les corrections de codage ont également fait introduire ont également créé des GHM de très courte durée. Alors, on a regardé d'un peu plus près ces erreurs de codage qui concernaient 350 rhumes. Je précise tout de suite qu'il peut y avoir plusieurs erreurs par rhume, ce qui fait que le total des erreurs dépasse 350. Alors, l'erreur la plus fréquemment retrouvée était l'erreur de choix de diagnostic principal, pour 81% des rhumes en erreur de codage, suivi par les surcodages de diagnostic associés significatifs, puis par le sous-codage de diagnostic associé significatif. Je précise également que ce sur- et sous-codage de DAS est à prendre au sens large. Tous ces DAS ne sont pas des CMA. Comme il y avait un grand nombre d'erreurs de choix du DP, nous allons regarder d'un peu plus près quelles étaient ces erreurs. Il se trouve qu'elles étaient extrêmement variées et qu'il était difficile de ressortir des règles systématiques. Un seul type d'erreur ressortait un peu plus fréquemment, c'était un mauvais choix, une mauvaise utilisation des codons Z qui étaient sous-utilisés, dont 25% des rhumes en erreur de codage. Pour l'essentiel, il s'agissait de bilan de maladie codé par erreur avec la maladie en position de diagnostic principal et non pas de diagnostic relié. Il y avait également des traitements mal codés sur le même principe. Alors, en termes de valorisation, on parle ici de manque à gagner. On pourrait parler de déficit ou de perte. On peut choisir le terme qu'on souhaite. Donc, le manque à gagner est lié au classement en borne basse, c'est-à-dire le différentiel entre le tarif plein et le tarif minoré par les forfaits et tarifs extrême bas. Ce manque à gagner était sur mars-avril de 1 400 000 euros et sur les séjours contrôlés dans cette étude, ce différentiel était de 1 million d'euros. Après correction, il ne nous restait plus que 277 séjours en borne basse pour un manque à gagner de 538 000 euros. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'on a gagné 500 000 euros, c'est juste le groupage qui a changé et donc le manque à gagner. Au contraire, quand on regarde l'effet de la correction du codage, cela a fait perdre à l'établissement 75 000 euros et on a gagné en qualité. Un autre chiffre intéressant à considérer, c'est le nombre moyen de jours qu'il manque au séjour en borne basse pour ne plus être en borne basse. Ce nombre de jours manquants, était en moyenne de 1,43 jours. Et pour trois quarts des séjours en borne basse, il ne manquait qu'un jour pour ne plus être en borne basse. Et pour ces séjours, rajouter un jour aurait allongé les recettes au total de 321 000 euros. On parle bien sûr ici des recettes et non pas du coût généré par l'allongement des séjours. On est bien d'accord. Alors, qu'indiquent nos résultats? Tout d'abord qu'il y a un grand nombre d'erreurs de codage, ce qui vient un peu modérer le constat initial d'élévation du nombre de séjours en borne basse. Cela dit, il n'en reste pas moins que la V11, en tout cas la V11A, s'est accompagnée d'une forte augmentation du nombre de séjours en borne basse et parallèlement d'une diminution potentielle de recettes très importante. Alors, cela amène deux questions. La première, c'est celle de la rémunération. Est-ce que des pratiques médicales correctes, effectuées dans des délais courts, sont rémunérées à leur juste valeur par ce système? Et si elles ne le sont pas, est-ce que leur qualité est remise en cause? Deuxième question, c'est celle de l'impact sur les pratiques médicales. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une incompréhension de la part des cliniciens et à une augmentation non mesurée, non maîtrisée des durées de séjour? Alors, quand on regarde les deux derniers mois de V11A, à Strasbourg, on est plutôt rassuré, en quelque sorte, de voir que le nombre de séjours en borne basse n'a pas diminué, il a même plutôt augmenté, même s'il y a probablement derrière ce chiffre encore des erreurs de codage. Alors, le DIMP Strasbourg, évidemment, ne conseille pas aux médecins d'allonger les durées de séjour. Cela dit, il faut rester vigilant, parce que si nous, nous ne le faisons pas, d'autres peuvent le faire à notre place. C'est ainsi qu'on a appris, un peu par hasard, que des visiteurs médicaux étaient venus rencontrer des médecins de l'hôpital pour leur faire des cours de PMSI et leur expliquer qu'il fallait garder les patients plus longtemps à cause des bornes basses. Quand on tape bornes basses sur Internet, on peut aussi tomber sur des choses comme celle-ci, d'un médecin DIM privé qui dit « éviter les durées inférieures à la borne basse, plus plus ». Ou encore « si la durée est proche de la borne haute, rallongez le séjour de quelques jours au-dessus de la borne haute » pour pouvoir émarger au supplément. Il faut donc rester vigilant. Alors, avant de conclure, il y a une autre manière intéressante d'aborder les bornes basses et qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu plus de recul et surtout d'activité en V11, V11A toujours, c'est de se faire un palmarès des GHM qui sont le plus fréquemment en bornes basses. Donc là, il y a un listing des GHM fréquemment en bornes basses sur l'année 2009 en V11. Pour les GHM qui comportent plus de 50 séjours. Et ça permet de cibler les contrôles et de repérer des GHM pour lesquels il y a des erreurs de codage. C'est le cas, par exemple, ici, du GHM obésité niveau 1. Ces GHM sont presque tous en erreur de codage. Et il s'agit en fait de bilan d'obésité et ou de polysomnographie. A l'inverse, on peut également... avec ce genre de tableau, repérer des GHM qui sont bien codés, des séjours bien codés, pour lesquels les bornes basses sont peut-être mal calibrées. C'est le cas ici du GHM de pneumonie et pleurésie basale, niveau 1. Nous avons quand même 51% des séjours en bornes basses. Alors, pour conclure, il faut bien sûr noter que la TIH a réagi face à cette augmentation du nombre de séjours en bornes basses, puisque en V11B, le nombre de séjours en borne basse a considérablement diminué. Sur les séjours de cette étude, un regroupage en V11B aurait fait diminuer de plus de la moitié le nombre de séjours en borne basse. Une autre évolution importante qui a été apportée en V11B, c'est la création d'un tarif socle qui permet de rémunérer mieux les séjours en borne basse quand ils sont de très courte durée. Alors maintenant, l'avenir, ça va être d'évaluer les effets de ces évolutions pour voir si elles sont suffisantes pour limiter les risques de dérive. Je vous remercie.
Donc, il y a eu, on était à 7 mois du début, après mars, où on se demandait ces problèmes de borne basse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fait diminuer les recettes? Est-ce que c'est un problème médical? Est-ce que c'est un problème de codage? Donc ce travail, on l'a fait dans les 6 premiers mois de la V11 pour savoir est-ce que l'augmentation des journées en borne basse était une réalité et est-ce qu'il y avait des mesures à prendre pour, entre guillemets, lutter contre les bornes basses. Et je tiens quand même à rajouter que les bornes basses ne sont pas nées avec la nouvelle classification de la V11. C'est quelque chose qui existait déjà bien avant. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu un sujet aussi immense? Donc là, je vais juste passer en rapidement. On a déjà vu la présentation tout à l'heure. Donc surtout, je tiens juste à préciser qu'il y a eu surtout cette suppression de la CM24 sur la V11. Ce qui a fait que tous les séjours qui étaient considérés en CM24 ont été redispatchés dans leur GHM respectif. Ça veut dire que quand il y avait la CM24, c'est-à-dire les séjours qui étaient de moins de 48 heures, quand les séjours étaient classés dans cette CM24, on ne pouvait pas considérer que c'était un séjour, une borne basse, entre guillemets. C'est-à-dire que pour les séjours, les patients qui restaient moins de 2 jours, moins d'un jour, à partir du moment où ils étaient en CM24, il ne passait à l'idée de personne que c'était une CM24. Sauf que depuis la V11, comme la CM24 n'existe plus, ces mêmes séjours, dès qu'ils rentrent dans leur GHM, ce sont des bornes basses. Alors, la nouvelle question, c'est est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça n'a pas augmenté? Ou alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit? L'autre contexte, c'est la mise en route de la T2A qui montait en charge, les préoccupations de prévision de recettes, et puis surtout avec les séjours en borne basse dans les prévisions de recettes, les séjours en borne basse, ça rentre comme des montants à déduire des recettes. Donc c'est quelque chose qu'on considère comme un handicap. Donc avec ce contexte-là, notre travail a été de voir si l'augmentation des séjours extrêmes bas était une réalité au niveau de l'établissement, ou alors c'était une augmentation qui pouvait être prévisible parce que soit l'activité augmente, soit les patients augmentent, soit la classification a été modifiée. Et aussi, l'autre question qui découle de la première, c'est de savoir si vraiment problème borne basse il y a, est-ce qu'on pourrait faire des mesures pour prévenir ces bornes basses et quelles seraient les celles envisageables. Donc, dans la première partie de ce travail, j'avais travaillé sur les premiers 6 mois du recueil des données du PMSI, donc c'est-à-dire avant qu'il y ait la validation complète des séjours par les médecins du DIR. Et à ce moment-là, on avait déjà constaté que les séjours extrêmes bas, ils augmentaient par rapport aux années précédentes. Alors, on s'est dit, peut-être à la conclusion de cette première partie du travail, on s'est dit peut-être qu'on est un peu trop tôt, on n'a pas tous les séjours validés, peut-être qu'on a une vision tronquée du vrai sujet. Donc, on a décidé de refaire la même chose sur tout le séjour, sur toute l'activité 2009 validée, envoyée au DUTEP. Donc, dont les résultats vont concerner toute l'activité MCO de 2009 du CHU de Dijon, et puis les critères de sélection des séjours extrêmes bas, bon, c'est des séjours hors CMD 90. On a pris en considération les IHM qui acceptaient bien les bornes basses, et on n'a pas pris en compte les séjours qui se terminaient par un décès, parce que ceux-là, ils ne sont pas considérés comme des séjours en bornes basses, quelle que soit la durée avant le décès. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Au départ, c'est une présentation générale. On a essayé de montrer comment est-ce que ces bornes basses ont évolué au niveau du CHU entre les années précédentes jusqu'en 2009. On voit qu'à partir de 2007 jusqu'en 2009, les séjours extrêmes bas, vous voyez, ils étaient, là vous avez le nombre de séjours extrêmes bas, et là vous avez le pourcentage par rapport au nombre total de séjours de l'établissement. En 2007, on voit que la proportion des bornes basses, c'est à peu près à 1%, et qu'en 2009, on passe à 4%. Et quand on regarde ce qui est en dessous par rapport au montant à déduire par recette, et on voit entre 2007 et 2008, on a 0,75%, et puis en 2009, on a le montant à déduire qui s'élève à peu près à 4,23% du montant global des recettes de l'établissement. Donc, au vu de ces chiffres, on ne peut que constater que visiblement, il y a quelque chose qui a augmenté. C'est-à-dire que l'agitation, c'est-à-dire en termes de bornes basses, on ne sait pas le pourquoi et du comment, mais là, visiblement, on ne s'agit pas pour rien. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Alors, le plus intéressant, c'est de savoir, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, maintenant, j'ai pris les séjours uniquement de 2009. Et chaque fois, on a mis en comparaison s'il y avait toujours la CM24 et s'il n'y avait pas la CM24. Donc, en 2009, si on dit qu'il y avait la CM24, on voit que ce qu'on considère comme borne basse, ça reste 2450 séjours en borne basse. Et quand on enlève la CM24, tous les séjours qui ont été ventilés dans leur GHM respectif, ils apparaissent en borne basse. Ce qui fait que quand on prend sans la CM24, on se rend compte qu'il y a une augmentation rien que du fait de la disparition de la CM24 hausse de la chute, disons, une augmentation de 50% des séjours extrêmement. Et quand on regarde pareil au niveau des montants à déduire, quand on prend en compte le fait qu'il n'y a plus la CM24, on se rend compte qu'il y a une augmentation du montant à déduire du fait des séjours extrêmes bas qui s'élève à 33%. Donc, à la première question, est-ce que la tendance, entre guillemets, en augmentation des séjours extrêmes bas, est-ce que les discussions sont légitimes ou rien? Moi, je réponds, il y a quelque chose qui se passe. Et on voit aussi que la disparition de la CM24, on voit bien qu'elle n'explique pas tout. C'est-à-dire, certes, ça vient se rajouter à hauteur de 50%, mais il y a quand même, vous avez vu dans la diapo précédente, les séjours extrêmes bas, c'était de l'ordre de 800, 900, et là, on est de l'ordre de 2455. Donc, quelque part, le fait de la modification ou la nouvelle classification, il a expliqué mon collègue tout à l'heure, il y a aussi cet effet de la nouvelle classification qui a fait que. Donc ça, ce sont les données qu'on a au niveau de l'établissement. Donc, on va dire à l'établissement, le nombre de séjours extrêmes bas a augmenté, le montant des dues a augmenté aussi. Alors si on veut essayer de trouver d'où vient le problème, si problème il y a, et parce que le seul moyen où on aura agi au niveau de l'établissement, c'est directement au niveau de là où la prise en charge se passe, c'est-à-dire au niveau des services. Donc, on a essayé de voir, est-ce que dans tous ces séjours extrêmes bas, il y avait une spécificité d'un service qui faisait que les séjours extrêmes bas, c'était toujours dans ce service-là. En tout cas, au niveau du CHU de Dijon, il n'y a pas un service qui se dégage comme le service qui produit les séjours extrêmes bas. Ce qui fait que, pour essayer de voir une vision au niveau de quelques services, on a sélectionné trois services, c'est-à-dire un service de médecine interne, un service de neurochirurgie et un service de chirurgie cardiovasculaire. Sachant que ces services-là, ils représentaient, un peu comme tous les autres, à peu près 5%, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un service qui se dégageait, à peu près 5% chacun de la totalité des bornes de base sur 2009. Là, j'ai essayé de vous montrer un peu comment est-ce que se distribuaient les durées de séjour, des séjours qui étaient en bornes de base. C'est-à-dire pour vous montrer qu'il n'y avait pas que les séjours qui étaient en CM24. C'est-à-dire tous ceux qui allaient jusqu'à un jour-là, et qu'il y a une partie aussi qui concernait les séjours hors CM24. On aurait été content si toutes les durées de séjour se passaient dans les deux premiers histogrammes. On dit, ah oui, c'est parce que la CM24 est partie, c'est pour ça que les séjours extrêmes bas augmentent. Donc, en fait, ça explique une partie, mais il y a une autre proportion non négligeable qui concerne les séjours extrêmes. Donc ça, c'est la répartition un peu des séjours extrêmes bas ramenés au niveau des services. Donc NC, c'est neurochirurgie, médecine interne, chirurgie cardiovasculaire. Et tous ces effectifs des séjours extrêmes bas dans ces services-là représentent à peu près, c'est les 5%, ils représentent à peu près 5% chacun dans l'ensemble des séjours extrêmes bas. Et on se rend compte que dans ces différents services, les types de bornes basses ne sont pas les mêmes par rapport à la manière dont les bornes basses sont valorisées. Par exemple, les séjours en neurochirurgie, en majorité, j'ai oublié de vous dire, la difficulté qui a été d'interpréter les séjours extrêmes bas au niveau des services, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire qu'au niveau, pour un RSS donné, souvent, le RSS n'appartient pas à un service tout seul. Donc, il y a des séjours qui sont multiservices. Donc, on ne peut pas dire, quand on a un RSS, que si ce RSS il est en bornes basses, ça veut dire que c'est parce qu'il était dans ce service. Donc, pour ce tableau-là, j'ai uniquement sélectionné tous les séjours mono-unités. comme ça, pour vraiment interpréter les séjours qui ont été pris en charge totalement dans un service. Donc, tous les multi-unités, ils n'y sont pas. Donc, j'ai pris uniquement les séjours mono-unités. Et on voit que pour les séjours mono-unités, en neurochirurgie, il y a beaucoup plus des séjours qui sont valorisés, selon le mot de valorisation, à la journée, alors que les séjours extrême bas en chirurgie cardiovasculaire sont surtout valorisés en mode de déclassement, et c'est souvent le déclassement du niveau 4 vers le niveau 3. Et en médecine interne, le mode de déclassement, c'était du niveau 1 vers le niveau inférieur, lorsqu'ils existaient. Et chaque fois, la ligne d'en bas, je nous ai mis un peu les écarts à la borne basse de ces différents séjours, et entre parenthèses, je vous dis le minimum et le maximum. C'est-à-dire qu'en neurochirurgie, par exemple, il manquait, pour reprendre les mots de mon collègue, il manquait 1,75 jours pour avoir le tarif normal du séjour en question. Bien sûr, quand je dis qu'il manquait 1,75, ça ne veut pas dire qu'il suffit de rajouter 1,75. Évidemment, l'explication est ailleurs. Les chiffres, ça veut juste, l'écart à la borne basse, ça veut juste dire que quand on regarde le séjour, il manque à peu près 2 jours pour qu'on touche le séjour soit valorisé au tarif de base. Et que l'écart la plus haute allait jusqu'à 13 jours. Et en médecine interne, 1,32. Et pareil, ça c'est la moyenne des montants à déduire. Et là, pour la ligne d'en bas, je vous ai marqué un peu la proportion des séjours multi-unités par rapport aux séjours mono-unités. Donc en médecine interne, il y en avait 34 contre 158 de mono-unités. Donc c'est un peu difficile d'interpréter au niveau. Et après cette répartition, c'est juste essayer de grouper les différents séjours pour essayer de voir quel type de pathologie était concernée par ces bornes basses. Et là, pour le groupage de ces pathologies, j'ai utilisé un autre groupement qui est proposé par sur le site de la TIH en groupe d'activité pour essayer de donner une autre classification plus large. C'est, là, je vous donne l'exemple de la chirurgie cardiovasculaire. On voit qu'en chirurgie cardiovasculaire, le groupe de pathologies dominant, c'était surtout les troubles vasculaires périphériques. Et dans ces troubles vasculaires périphériques, sont inclus tout ce qui est des anévrismes au niveau des anévrismes artériels, les complications vasculaires des diabètes. Et puis, en termes de groupe de pathologies, c'est un peu un groupe de diagnostics principaux. Et groupe d'activité, c'est un groupe au niveau des GHM. Et en chirurgie cardiovasculaire, le GHM qui arrivait en tête, c'était le 05C01. Ça s'appelle exactement la chirurgie majeure de revascularisation. Donc, en termes de la discussion, ce sera pareil, comme la discussion qui s'est déjà entamée tout à l'heure, c'est par rapport au séjour de l'établissement, ça représente 4% de l'ensemble. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais c'est quand même que 4%. Tendance nette à l'augmentation. Et les raisons possibles qu'on a pu identifier, évidemment, le problème du surcodage, c'est-à-dire que, par exemple, en chirurgie cardiovasculaire, la notion de surcodage, ça veut dire qu'on avait choisi un diagnostic principal qui a mené à un niveau de sévérité qui, en réalité, on va dire que ne l'était pas. C'est pour ça que le séjour a été valorisé en dessous de son niveau de sévérité. Et puis après, les problèmes de borne basse, pourquoi est-ce que les séjours sont courts? Si ça se trouve, c'est parce qu'on est devenu très performant au niveau technologie médicaux, ce qui fait que les patients y restent moins longtemps. À ce moment-là, c'est peut-être la manière de calculer les bornes basses qui ne suivent pas le rythme du progrès médical. Et ça, ce sont que des hypothèses de cause. Hein. Ce sont pas les réalités, c'est n'étayé par rien du tout. Et puis, la méthode de calcul des bornes, est-ce que la méthode de calcul de la borne basse, et évidemment, actuellement, on sait que la borne basse est toujours la durée moyenne de séjour divisée par 2,5 et on arrondit au chiffre entier inférieur. Est-ce que c'est toujours la bonne? Est-ce que la durée moyenne de séjour utilisée est celle qui est à jour actuellement? Donc, en conclusion, vu qu'on a essayé de voir ce qui s'est passé au niveau des services, et si on va voir maintenant les services, on dit, voilà, il y a un problème de borne basse, ce qui se passe, c'est qu'il manque un jour pour avoir la recette complète du séjour. Mais si on leur dit, quel est le message qu'on va leur dire? C'est de garder les patients plus longtemps avant de les faire sortir. Moi, je pense que cette réponse-là, ce n'est pas à nous. On donne l'information, les bornes basses existent, voilà comment ça se passe, voici comment ça se passe. Si ça se trouve, ces bornes basses sont justes. Je veux dire, les bornes basses, ça ne veut pas dire qu'on enlève les recettes. Ça veut juste dire que le séjour, il est payé presque à sa juste valeur. Si le patient, il reste un jour, parce qu'il devait rester un jour, il est payé à la journée, ce qui est légitime. Donc, à la fin, c'est est-ce que vraiment problème de borne basse, il y a? Il y a des séjours courts, mais est-ce qu'il y a un problème de borne basse? Donc, ça, c'est le débat philosophique au niveau des cliniciens. Nous, on ne dit pas qu'il faut augmenter les journées ou comment il faut soigner celui qui soigne les malades. Nous, on dit juste que voilà. Et c'est ce discours-là qu'on a au niveau des cliniciens.
Voilà. Merci.
Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter un travail qui a été réalisé au centre hospitalier de Bretagne Sud à Lorient et dont l'objet a été d'analyser l'impact des contrôles externes et des nouvelles règles de codage liées à la V11 sur l'activité de soins palliatifs en PMSI-MCO. Les soins palliatifs sont une priorité de santé publique nationale dont la mise en œuvre est réglementaire, professionnelle et également sanitaire. Et médico-économique avec la création en 2004 d'un GHM spécifique de l'activité soins palliatifs qui aujourd'hui est valorisé par 4 tarifs dont un est spécifique au lit identifié de soins palliatifs, structure qui a été créée en 2006. À Lorient, nous avons eu des difficultés pour valoriser cette activité médicale de soins palliatifs notamment parce que, suite au contrôle externe de l'assurance maladie, en 2008, 80% des séjours soins palliatifs contrôlés de 2007 ont été déqualifiés et 70% pour le contrôle des séjours de soins palliatifs contrôlés en 2008. Cette activité médicale a été également difficile à valoriser suite aux nouvelles règles de codage liées à la V11 instaurées en mars 2009. Notamment à cause de l'effet restrictif de la nouvelle définition du diagnostic principal qui doit être en lien avec le motif d'hospitalisation, ce qui spécifiquement pour les soins palliatifs empêche l'utilisation du code Z515 lorsque la prise en charge de soins palliatifs est prise secondairement en cours de séjour, sauf lorsqu'il y a la création d'un nouveau rhume avec mouvement vers un autre service du patient. Ce qui questionne sur la place et l'intérêt des lits identifiés de soins palliatifs et le type et la qualité des informations que l'on doit retrouver dans le compte-rendu pour décrire au mieux cette activité et la valoriser. Donc l'objet de ce travail a été de décrire et de quantifier l'impact de ces freins. À l'issue du contrôle externe des données 2008, nous avons réalisé une analyse qualitative de l'échantillon des 80 séjours soins palliatifs contrôlés par l'assurance maladie, en sachant que ces 80 séjours représentaient 18% de l'activité soins palliatifs de l'établissement en 2008 et que le codage y était semi-centralisé. Nous avons réalisé cette analyse en faisant un retour au dossier, et non pas au CRH, en évaluant la pertinence d'utilisation de ce code, en veillant à ce que soit respectée la définition des soins palliatifs au regard des différentes lois circulaires et recommandations des sociétés savantes et en veillant à ce que soient respectées également les règles du guide méthodologique de codage. Parmi les 80 séjours contrôlés par l'assurance maladie, nous avons estimé que 25 avaient été codés soins palliatifs à tort et que 55 devaient être valorisés soins palliatifs. Parmi ces 55 séjours, 17 ont été acceptés par l'assurance maladie et 38 ont été récusés, ce qui entraîne un taux de rejet de 70% et objective une hétérogénéité dans l'application des règles de codage de soins palliatifs et dans l'interprétation du terme soins palliatifs, un vide réglementaire concernant l'utilisation de ce code, des conflits d'intérêts entre l'assurance maladie et notre établissement, puisque le montant d'indu s'élève à 82 000 euros. Comme ces conflits n'étaient pas spécifiques à notre établissement, cela objective également la nécessité de trouver un consensus dans le codage des soins palliatifs. Concernant le contrôle qualité que nous avons concernant les nouvelles règles d'utilisation du codage liées à la V11, nous avons tout d'abord mesuré les variations d'utilisation du code soins palliatifs en diagnostic principal. Puis nous avons réalisé un contrôle qualité en faisant un retour au compte-rendu d'hospitalisation pour mesurer le nombre de rhumes qui, en V10, pouvaient avoir un diagnostic principal soins palliatifs, alors qu'en V11, lié à l'effet restrictif de la définition des DP, ne pouvaient plus avoir un code soins palliatifs. Nous avons analysé les données de mars à septembre 2009, incluant les rhumes avec DP ou DAS soins palliatifs, ainsi que les rhumes avec un code soins palliatifs sur la feuille de codage semi-centralisée qui est remise par les services au DIM. 6 services ont été concernés par cette analyse, parmi lesquels il y avait 8 lits identifiés de soins palliatifs, répartis dans 4 services. Au total, 371 rhumes ont été analysés, pour ce qui représentait 304 séjours, et cela représentait 93% de l'activité de soins palliatifs en DP de rhume pour l'établissement pour cette période. Concernant les effectifs d'utilisation de diagnostic principal de rhume, nous les avons mesurés pour 3 périodes différentes, et nous avons mesuré pour année de référence, donc la première année, mars 2007 à mars 2008, et nous avons mesuré les variations d'utilisation de ce code pour l'année N+1 et N+2. N+2 étant l'année 2009. Et donc, en termes d'effectifs de rhume, de RSS et de fil actif de patients, on s'aperçoit qu'il y a, projeté à l'année bien sûr, une diminution d'environ 50%, 50 à 55% de l'utilisation de ce code. Concernant notre contrôle qualité des données de mars à septembre 2009, nous sommes partis de 169 rhumes avec un code Z515 en DP, ce qui représentait 142 séjours, dont 126 valorisés avec le GHM soins palliatifs. Nous sommes partis également de 113 rhumes avec le code soins palliatifs en DAS et 89 rhumes avec le code soins palliatifs sur la feuille de codage semi-centralisée. Le contrôle qualité a entraîné une déqualification de 48 rhumes de la première ellipse et également de 48 rhumes de la deuxième ellipse, dont 18 ont été requalifiés en diagnostic principal, donc ils sont retournés dans cette deuxième ellipse. Au total, après le contrôle qualité, nous avons obtenu la situation suivante. 139 rhumes avec le diagnostic principal Z515, 75 séjours, dont 99 valorisés soins palliatifs, 154 rhumes avec un DAS soins palliatifs, 33 exclus du codage soins palliatifs, et 45 rhumes impactés par l'effet V11, c'est-à-dire 45 rhumes qui, en V10, auraient pu se retrouver dans cette première ellipse avec un code soins palliatifs en DP, alors qu'en V11, ils se retrouvent avec un code soins palliatifs utilisé en DAS. Ces 45 rhumes impactés impactent le GHM de 43 séjours, pour un montant de 58 000 euros. Nous avons ensuite analysé les caractéristiques des patients et des 43 séjours impactés par la V11, c'est-à-dire le groupe numéro 3, par rapport aux séjours de l'établissement valorisé soins palliatifs, c'est-à-dire le groupe numéro 2, et par rapport aux séjours valorisés soins palliatifs des établissements bretons, groupe 1. On s'aperçoit que la moyenne d'âge est significativement plus élevée dans le groupe numéro 3 par rapport au groupe numéro 2 et 1, ce qui questionne sur l'effet restrictif de la V11 sur les soins palliatifs, avec comme hypothèse que certains groupes de patients, notamment les personnes âgées, ont un type de prise en charge palliative qui est différent, parce que les besoins sont différents, parce que l'amorce de la mise en place de la démarche palliative est probablement différente. Ce qui empêche la clinique de concorder avec les règles de codage de la V11 pour lequel le diagnostic principal doit être en lien avec le motif d'hospitalisation. Concernant le taux de mortalité, les 64 patients qui sont décédés et dont le séjour a été valorisé soins palliatifs dans l'établissement représentent projetés à l'année 11,5% des séjours de l'établissement pour lesquels il y a eu un décès. Ce qui questionne sur le périmètre de valorisation du GHM soins palliatifs, sans sous-entendre pour autant bien sûr que tous les patients qui décèdent doivent entrer dans le GHM soins palliatifs. Nous avons ensuite analysé les lits identifiés de soins palliatifs. Après le contrôle qualité, 72 des séjours étaient passés sur un lit identifié de soins palliatifs. Le taux d'occupation de ces lits était de 55%. Et parmi ces 72 séjours, 80% avaient un GHM avec la valorisation soins palliatifs et 34% n'auraient pas eu le GHM soins palliatifs si au cours du séjour, il n'y avait pas eu un mouvement administratif du patient sur un LISP permettant la création d'un rhume qui, lors du groupage, a permis l'entrée dans le GHM soins palliatifs. Ce qui questionne sur l'efficience des LISP en regard du taux d'occupation et sur également la nécessité de fractionner administrativement des séjours pour optimiser leur valorisation. Enfin, concernant le compte-rendu d'hospitalisation, dans 34% des cas, nous n'avions pas les informations suffisantes pour savoir précisément quand et comment utiliser ce code, ce qui questionne sur la transparence, la traçabilité et surtout sur la complexité des informations que l'on doit retrouver pour optimiser au mieux la description de cette activité et de sa valorisation. Nous avons eu des difficultés pour superposer la réalité clinique des soins palliatifs qui est décrite au codage binaire qui est imposé par le PMSI. Cliniquement, on sait qu'il existe une variabilité inter- et intra-établissement sur le périmètre et la perception des soins palliatifs. Une récente définition de l'INPES rappelle que les soins palliatifs ne concernent pas les derniers jours de vie. Dans les pratiques professionnelles, actuellement, il y a une place de plus en plus importante pour la culture palliative, mais il semble extrêmement difficile de préciser quel est le type de prise en charge spécifique pour dire qu'un patient est dans une prise en charge de soins palliatifs, et extrêmement difficile de dire quand précisément un patient rentre dans une démarche palliative. Il existe à un moment donné de la prise en charge du patient une amorce de prise en charge palliative qui progressivement, en fonction de la culture palliative, des moyens, va progressivement monter en puissance pour arriver à une phase terminale. Et en fonction de cette chronologie de la prise en charge du patient, il existe une diversité clinique de situations palliatives extrêmement importante qui s'oppose à la vision médico-économique pour laquelle il y a un code Z515 unique pour valoriser l'ensemble de ces situations palliatives, d'où l'hétérogénéité des situations de codage que l'on retrouve. D'où la nécessité de définir un périmètre d'utilisation de ce code pour répartir justement équitablement des ressources dans un système qui est limité, en ayant notamment un référentiel opposable lors des contrôles externes, pour avoir une meilleure homogénéité de codage, tout en continuant à témoigner, bien sûr, des moyens déployés pour la juste valorisation des séjours. Enfin, surtout, ce périmètre est nécessaire pour que le codage PMSI soit plus en adéquation avec le cadre de réflexion qui est offert par la loi Leonetti, à savoir valoriser singularité et hétérogénéité des situations palliatives, valoriser la consommation des ressources qui leur sont propres et qui sont difficiles à quantifier, et surtout, pour valoriser la continuité et la globalité d'une prise en charge palliative d'un patient qui est dans une démarche palliative et qui peut être hospitalisé avec ou sans complication de sa pathologie incurable, notamment pour que soit respecté le principe éthique d'autonomie décisionnelle des professionnels qui, lors d'une prise en charge palliative, vont parallèlement continuer à avoir des actes curatifs pour certaines complications ou événements intercurrents. Enfin, ce périmètre d'utilisation est nécessaire pour structurer un système d'information afin qu'il soit plus le reflet de l'activité pratiquée, notamment pour évaluer les besoins, aider au pilotage et à l'orientation stratégique. Enfin, ce travail permet d'amorcer une réflexion plus globale sur la nécessité de décrire, clarifier et valoriser la prise en charge et les droits des patients en fin de vie, dont la prise en charge est spécifique, en se questionnant sur la nécessité d'attribuer au code Z515, en position de DAS, un niveau de sévérité, pour que les professionnels, les établissements, les professionnels dans leur pratique aient réellement, humainement et sereinement les moyens de valoriser l'activité d'accompagnement des patients et des, fin, et des patients et des familles, des patients et des familles, tout simplement. Merci.
Lors de l'envoi aux tutelles, on transmet notamment des informations concernant des actes à travers les résumés standardisés et des informations concernant l'usage éventuel de dispositifs médicaux implantables à travers le fichier FishComp. Et c'est donc à ces deux informations que nous nous sommes intéressés et aux liens qui peuvent exister entre leurs nomenclatures respectives, la classification commune des actes médicaux et la liste des produits et prestations. Concernant les séjours avec actes impliquant l'utilisation d'un dispositif, deux problèmes peuvent se poser, ou deux points de vue. Du point de vue du DIM, pour les recettes T2A, l'acte opératoire est très souvent classant et indispensable à une juste valorisation du séjour. Du point de vue de la pharmacie hospitalière, c'est la même chose, la déclaration dans le fichier FishComp est bien sûr indispensable à son remboursement et on constate malheureusement un écart important entre les DMIHT et ceux remboursés donc via ce fichier FishComp. Alors, ces deux problèmes sont bien sûr accrus en situation de codage décentralisé, ce qui est le cas dans notre établissement. Alors, donc, on a ces résumés standardisés et ce fichier FishComp. Et pour ces séjours, en théorie, si on a mention de l'utilisation d'un dispositif dans le fichier FishComp, justement, on s'attend à trouver un acte dans le RSS. Et réciproquement, si on a un acte appelant un DMI, on s'attend à trouver au moins un DMI dans le fichier FishComp. Alors, c'est heureusement le cas pour la majorité des séjours, mais pas tous. Et donc, c'est un petit peu les deux objectifs de notre travail. D'une part, partir du fichier FishComp et de l'information sur les séjours quant à l'utilisation d'un dispositif, et essayer d'identifier des séjours dont le codage des actes serait insuffisant ou manquant, et réciproquement, partir de DRSS et donc de l'information sur les actes pour essayer d'identifier des séjours pour lesquels un DMI n'aurait pas été déclaré. Alors bien sûr, la première étape, c'est d'essayer de mettre en évidence ce lien entre les deux nomenclatures, CCAM et LPP, et en l'occurrence, à travers une table d'association cohérente entre des actes et des dispositifs, et en réalité, entre des familles, je vais vous le présenter tout de suite. Donc, pour établir cette table d'association, nous nous sommes basés sur les données 2008 de notre établissement. La première étape a été justement de constituer des familles les plus homogènes possibles de dispositifs, homogènes vis-à-vis des actes pratiqués, du type un plan orthopédique de la hanche, un plan orthopédique du genou, des stents ou alors des stimulateurs, etc. Pour chacune de ces familles ainsi constituées, sur les données 2008, donc on a recensé tous les actes qui avaient été associés à ces séjours. Puis, pour augmenter la cohérence des associations, nous avons censuré les chapitres 17, 18 et 19, qui concernent respectivement des actes sans précision topographique, des gestes complémentaires et des codes transitoires. Censurer également les sous-chapitres 1, qui sont des actes diagnostiques et qu'on pensait moins pertinents, même si peut-être il y a des exceptions. Et enfin, pour les associations résiduelles, on les a examinées pour essayer d'éliminer celles qui étaient franchement incohérentes, puisqu'on avait constitué la table au départ sur des données réelles et qu'il y a des associations coïncidentes malheureusement. Pour améliorer l'exhaustivité des associations, puisqu'on avait travaillé sur 2008, on s'est servi un peu de la structure du code dans la CCAM. Et pour la troisième lettre qui code l'action, pour les actions K et L, justement, remplacer et implanter, on a supposé que vraisemblablement elle faisait appel à un dispositif. Et donc dès lors qu'une action K ou L, un code, l'action K ou L était présent déjà dans la table d'association, pour chaque famille, on ajoutait tous les codes frères en K ou en L, donc de même hiérarchie. Donc l'utilité de cette table a été évaluée sur le premier trimestre de l'année 2009. Pour l'objectif 1, nous sommes partis de l'ensemble des séjours du premier trimestre déclarés dans FishComp, donc avec DMI, si un acte cohérent était associé, d'après la table que nous avions établie, le séjour était lui aussi jugé cohérent, et sinon nous contrôlions le dossier, donc notamment compte-rendu d'hospitalisation bien sûr, mais compte-rendu opératoire. Et pour l'objectif 2, cette fois-ci l'évaluation est portée sur des familles d'implants orthopédiques, et nous avons sélectionné cette fois tous les séjours qui avaient au moins un acte présent dans notre table d'association. Et sur cette base de séjour, nous cherchions si non seulement ils apparaissaient dans fiche-compte, mais si le DMI appartenait à la bonne famille et était cohérente avec l'acte topé à la sélection initiale. Si un DMI cohérent était présent, le séjour était jugé lui aussi cohérent, et sinon, nous contrôlions le dossier. Les résultats pour cet objectif 1, donc de chercher des séjours avec dispositifs médicaux sans acte cohérent, donc évalué sur le premier trimestre 2009, on avait sélectionné 655 séjours, donc dans fiche-compte, avec mention d'au moins un dispositif. Sur la base des associations et de la table, 38 étaient suspects a priori, et 34 sur ces 38, après examen des dossiers, étaient effectivement des alertes pertinentes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un problème de codage qui soit inapproprié pour 15 d'entre eux ou une intervention carrément non codée pour 15 et les 4 autres étaient des problèmes un peu particuliers. On a regardé à la fin de l'année si ces 34 séjours avaient pu être corrigés et donc 9 pour le codage inapproprié l'avaient été, 14 pour les interventions non codées et 3 des autres problèmes avaient pu être réglés. À la fin de l'année, on a également étendu la requête à l'ensemble de l'année pour essayer d'évaluer un petit peu quantitativement le nombre d'alertes que ça représenterait. Et il restait quand même 188 séjours en alerte. Donc, comme les séjours suspects, 38 au premier trimestre. À la fin de l'année, il en restait 188. Quant au résultat de l'objectif 2, donc de recherche de séjours pour lesquels il manquerait un DMI eu égard à l'acte codé, sur le premier trimestre et pour des familles d'implants orthopédiques, nous avions donc 11 séjours avec arthroplastie de l'épaule, 33 avec arthroplastie du genou, 114 avec arthroplastie de la hanche. Sur ces séjours, 8 étaient en alerte, compte tenu de l'égard à la table d'association qu'on avait établie, dont 6 qui étaient pertinents après examen du dossier. Donc dans le compte-rendu opératoire, il était fait mention explicite de l'usage d'un dispositif qui n'apparaissait pas dans fiche-compte. Pour les 33 du genou, il y avait 10 alertes, dont 9 pertinentes. Pour la hanche, les sept alertes générées étaient effectivement des séjours pour lesquels on avait utilisé un DMI, ou au cours desquels plutôt, et qui n'étaient pas mentionnés dans fiche-compte. Et 10 de ces séjours avaient pu être corrigés à la fin de l'année, et l'extension, comme tout à l'heure dans la diapo précédente, l'extension à l'année 2009, montrait qu'à la fin de l'année, il restait près de 80 séjours en alerte, donc suspects de manquer d'un DMI dans fiche-compte. Alors, ce travail semble montrer que la détection d'actes manquants est pertinente, que la détection de DMI manquants est pertinente, mais pour certaines familles ciblées, notamment orthopédiques. Il permet en outre non seulement la quantification des séjours litigieux, mais aussi leur identification précise, donc avec un numéro de séjour à la clé. Les limites, bien sûr, l'absence d'information, de double information de DMI et d'actes est irrattrapable. Il se pose également la question dans la table des associations non recensées et des associations peu spécifiques qui ont des effets différents en fait selon l'objectif auquel on s'attaque et qui sont également responsables de problèmes de pertinence pour certaines familles dans la recherche de DMI manquants. La granularité de lecture de l'arborescence LPP est mentionnée ici parce qu'elle intervient dans la constitution des familles les plus homogènes possibles de DMI et la construction de l'arborescence est assez particulière. Elle part plutôt sur les matériaux, soit synthétiques, soit avec des dérivés animaux éventuellement. Et donc pour constituer les familles, il faut associer plusieurs branches entre elles et selon la profondeur de précision qu'on choisit pour définir les familles, on se retrouve soit avec un problème de généralisabilité, soit au contraire avec un manque de précision. Alors bien sûr, il ne suffit pas de détecter les problèmes et encore faut-il les corriger. Et à la fin de l'année 2009, dans notre établissement, la pharmacie déplorait encore, rien que pour les implants orthopédiques, un écart entre les dispositifs achetés et ceux remboursés de plus de 200 000 euros, donc rien que pour les implants articulaires. Alors outre l'intérêt en termes de quantification et d'identification de numéros de séjour, le travail constitue aussi un outil de communication important pour le DIM et la pharmacie. notamment auprès des cliniciens et du bloc, mais également auprès des instances, et a pu permettre en fait un certain nombre d'actions de sensibilisation et de réorganisation au sein des blocs. Par contre, se pose la difficulté du maintien, que ce soit en termes de moyens humains, bien sûr, et surtout par rapport à l'évolution, aux évolutions fréquentes de la CCM et de la LPP, puisqu'il faut maintenir la table d'association au fur et à mesure des évolutions. Les perspectives, puisque c'est dans le sujet, il faut tout de même mentionner les travaux de la TIH publiés en janvier, et qui s'intéressent justement aux dispositifs médicaux implantables. Et il y a donc des tableaux qui ont été mis à disposition justement pour évaluer un certain nombre de dispositifs. Ici les stents, les prothèses de hanche et les stimulateurs et défibrillateurs. Eux se basent sur les racines des GHM, nous c'était donc sur les actes. On peut mentionner en termes de perspective l'évolution des nomenclatures, puisque la relation ACT-DMI n'est pas systématiquement explicite eu égard au code action dont on s'est servi, puisqu'il y a des actes qui appellent les DMI qui n'ont pas forcément l'action K ou L, ce qui complique un peu notre tâche, mais c'est pour cet objectif particulier, bien sûr. Quant à la liste des produits et prestations, la stabilité de l'arborescence n'est pour l'instant pas garantie, et se pose le problème de la définition des familles, comme je vous le disais tout à l'heure. Et bien sûr, d'autres approches sont possibles et sont envisagées. Et peut-être d'autres travaux dans la salle ont été faits autour de ces dispositifs. Nous mettons à disposition la table aux établissements de santé qui le demanderaient par email. Et je vous remercie.